Décryptage. Marion Cazanov.
À deux pas de Central Park, en plein cœur de New York, l'installation peut surprendre. Des dizaines de tentes sont restées plantées depuis une dizaine de jours sur les pelouses de la prestigieuse Université de Columbia, un campement pro-palestinien où sur place, des étudiants réclament la fin de l'offensive israélienne à Gaza. Ce mouvement a été suivi dans la foulée par d'autres universités américaines avec des heurts et des arrestations. Il n'en fallait pas plus pour la droite américaine conservatrice pour accuser les facs du pays de wokisme, d'idéologie hors de contrôle. Mais est-ce vraiment le cas? Quelle opinion domine dans ces facs? Quel rôle joue-t-elle dans la politique américaine, notamment dans la campagne présidentielle? On répond à toutes ces questions ce soir dans Décryptage. Avec deux invités ce soir par téléphone. Bonsoir Tristan Cabello.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, historien spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'université Johns Hopkins à Washington. Et bonsoir Jérôme Viala-Godefroy.
Bonsoir.
Et vous êtes chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des États-Unis. Voilà ce qu'on pouvait entendre ces derniers jours dans les campus américains. Là, en l'occurrence, c'était sur le campus de Columbia, donc à New York, dont je parlais. Tristan Cabello, est-ce que c'est une minorité aujourd'hui qui se rassemble dans les universités? Comment voir ce mouvement? Quelle importance lui donner aujourd'hui?
Oui, moi, je crois que c'est un mouvement qui ressemble beaucoup en fait, au mouvement de la jeunesse américaine que l'on a vu dans les 10-15 dernières années. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ressemble beaucoup à Occupy, à Black Lives Matter, même aux campagnes de Bernie Sanders. C'est-à-dire que c'est cette même jeunesse, je l'appelle l'Amérique de demain, c'est-à-dire cette jeunesse multiculturelle, multiraciale, multiconfessionnelle aussi, qui en fait, à travers Gaza, comme elle le faisait avec George Floyd et Black Lives Matter, interroge des systèmes de pouvoir, des systèmes de domination. Alors ça peut être l'Empire, ça peut être le racisme systémique. Et à chaque fois qu'ils font ça, en fait, ils essaient d'avoir de commencer par des revendications locales. Alors vous avez dit dans l'introduction que les étudiants voulaient un cessez-le-feu. En fait, leur revendication principale, elle est tout à fait différente. Ils veulent que leurs universités se désinvestissent des entreprises d'armement américaines. C'est-à-dire que les universités aux États-Unis sont des entités fiscales très riches, elles ont de riches donateurs, elles ont aussi des prêts d'inscription élevés. À Columbia, c'est 70 milliards à l'année. Et les étudiants en fait, demandent à ce que leur université ne passe pas fructifier leur argent dans des fonds d'armement. Il faut savoir que ça, c'est des conversations en fait, qui sont tout à fait communes aux États-Unis, dans les universités. On a discuté beaucoup ces dernières années de ne plus investir dans des entreprises qui n'étaient pas des entreprises vertes, dans des entreprises qui faisaient la promotion des énergies fossiles. Donc tout ça, c'est quelque chose qui se passe beaucoup aux États-Unis, on parle beaucoup de ça. Et puis j'allais dire aussi, vous parlez de la jeunesse woke, moi j'ai envie de dire que c'est aussi une jeunesse qui met en application la théorie qu'elle a apprise dans beaucoup de ses cours à Columbia. Vous savez que c'est l'école d'Edward Said, le grand théoricien palestinien qui est à Columbia pendant des années. Mais c'est aussi l'école où enseigne Kimberly Crenshaw, l'inventrice de l'intersectionnalité. C'est aussi l'école où enseigne Kendall Thomas, l'inventeur de Critical Race Theory. Et donc, on voit vraiment des étudiants qui ressemblent beaucoup au mouvement de jeunesse des États-Unis des 10-15 dernières années, mais tout simplement qui mettent leurs théories qu'ils ont apprises dans les cours en pratique.
Alors Tristan Cabello, on va juste vous rappeler, parce que la liaison n'est pas très très bonne, je vais vous passer la parole, Jérôme Viala-Godefroy. Donc ce ne sont pas que les universités les plus élitistes, hein, pas que les Ivy League qui sont concernées par ces rassemblements aujourd'hui. Comment analysez-vous le fait que ce mouvement se propage autant? Est-ce que pour vous c'est aussi une continuité du mouvement Black Lives Matter?
Alors, il y a effectivement de ça, mais il y a aussi eu des arrestations assez violentes, notamment le 18 avril sur le campus de Columbia. Et ça a eu pour conséquence vraiment de galvaniser l'action, c'est-à-dire vraiment là de motiver un certain nombre d'étudiants à se mobiliser. Donc c'est parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que là on verra aussi la dimension politique, mais la présidente de l'Université de Columbia avait eu une audition avec le Congrès, devant le Congrès, et notamment par des élus républicains qui l'ont beaucoup critiqué. Et 3 jours après, elle avait appelé la police à venir sur le campus et il y a eu des arrestations, y compris d'ailleurs d'enseignants. Et donc ça a énormément choqué, c'est passé en boucle sur les réseaux. Et là, on a vu, en tout cas, on verra s'il y a une concomitance, mais c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment se développer partout au niveau des universités des mouvements beaucoup plus forts.
Et les conservateurs ont parlé d'incidents antisémites, de montée de l'antisémitisme dans les universités, dans les médias, dans certains articles, et des étudiants juifs rapportent même en avoir été victimes ces derniers mois. Jérôme Viala-Godefroy, est-ce qu'il y a vraiment un problème d'antisémitisme sur les campus américains ?
Alors, il y a de l'antisémitisme, une montée de l'antisémitisme globalement aux États-Unis, comme on voit en Europe. Il y a effectivement des incidents qui ont été bien documentés. Cela dit, ils sont mis en épingle et mis en valeur particulièrement par certains médias et instrumentalisés par des politiciens, notamment les républicains, parce qu'ils voient que on est en campagne, on est en campagne présidentielle, et puis ils voient bien que c'est une des faiblesses des démocrates. Et en plus, ils sont unis depuis très longtemps contre les universités qu'ils voient comme des bastions de l'idéologie gauchiste, des incubateurs de radicalisme sur les questions de race et de genre. Et donc, ça leur permet aussi de s'attaquer directement aux universités et de créer un peu de mettre de l'huile sur le feu.
Alors justement, Tristan Cabello, vous êtes de retour avec nous. À quelques mois de la présidentielle, est-ce que Joe Biden peut être fragilisé par ce qu'il se passe dans les universités? On voit que les démocrates ne réagissent pas trop pour l'instant. Ils sont gênés par ces rassemblements.
Oui, alors Joe Biden, en fait, perd à bien des égards une grande partie de la jeunesse américaine en ce moment, mais aussi une grande partie des minorités. Alors, pas seulement sur cette mobilisation à Gaza, mais aussi sur d'autres items de sa politique. Je crois qu'il est très important de rappeler que cette élection va vraiment se passer dans quelques États. L'État, par exemple, du Michigan. Donc ça va vraiment se jouer à la marge. Et par exemple, dans l'État du Michigan, où il y a à peu près 220 000 arabo-musulmans, mais aussi deux villes étudiantes de Ann Arbor, par exemple, et de East Lansing, c'est un État qui pourrait basculer dans le camp de Trump. Donc on voit que ces mobilisations-là peuvent absolument influencer le scrutin et surtout faire basculer certains États dans le camp de Trump.
Et est-ce que traditionnellement, hors cette actualité, les campus américains jouent un rôle dans les élections américaines? Est-ce que les candidats prêtent de l'importance à ce que pensent les étudiants? Est-ce qu'ils viennent beaucoup à leur rencontre? Comment ça se passe?
Alors, beaucoup, oui, puisque c'est, comme vous le savez, la saison des remises de diplômes. Et donc, Joe Biden, par exemple, a déjà planifié de donner deux discours de remise de diplômes dans deux universités différentes, ce qui pose bien sûr beaucoup de problèmes. Il a, par exemple, choisi de s'adresser cette année à une université noire d'Atlanta, Morehouse. Et ça fait déjà beaucoup débat sur le campus. Alors il est vrai que Joe Biden essaie vraiment de remobiliser cet électorat afro-américain, cet électorat jeune. Et donc ça pourrait être une bonne idée. Or, il semblerait que les étudiants ne l'acceptent pas vraiment sur le campus.
Jérôme Viala-Godefroy, le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, s'est lui rendu il y a quelques jours sur le campus de Columbia. Il a demandé notamment aux élèves de retourner en cours. Comme s'est allié de Trump, beaucoup de conservateurs taxent les universités américaines de wokisme. wokisme, on pourra revenir d'ailleurs plus tard sur ce terme. Est-ce que les étudiants américains sont majoritairement très à gauche? Est-ce que c'est vrai de dire ça? Quelle est l'opinion, est-ce qu'il y a une opinion majoritaire dans les universités américaines?
Oui, alors traditionnellement, effectivement, ils sont beaucoup plus à gauche. Et puis, alors le problème, c'est qu'ils ont tendance aussi à moins voter. Mais cela dit, dernièrement, notamment dans l'élection de 2020, ils ont quand même eu une importance non négligeable. Alors, ce qui pourrait se passer, effectivement, comme le disait mon collègue, c'est d'ailleurs, c'est pas forcément qu'ils vont aller voter Trump, bien évidemment, mais c'est qu'ils pourraient ne pas voter. Et quand on est à des marges très faibles, dans des États comme le Michigan ou le Wisconsin, etc., s'il n'y a pas la motivation et la mobilisation de tout le monde, ça pourrait effectivement changer la donne. Un petit mot là-dessus aussi sur une possibilité éventuelle qui fait très peur aux démocrates, ça serait qu'il y ait des manifestations qui pourraient tourner en la violence lors de la convention de Chicago cet été. Parce que là, il y a effectivement le spectre de 68, 1968. Là, on était dans des manifestations contre la guerre du Vietnam. Et la violence qu'il y avait eu avec des arrestations très, très violentes contre les étudiants à l'époque qui manifestaient contre la guerre du Vietnam avait vraiment été très marquante et avait contribué notamment à l'élection de Nixon qui était sur cette idée de loi et ordre. Et on voit les républicains essayer de parler de ça, de mettre en avant cette idée qu'il faut amener de l'ordre, voilà, et qui mettent vraiment de l'huile sur le feu. Donald Trump comparait à Charlottesville et disait que c'était une haine bien pire. Hein, Charlottesville, c'était là où il y avait eu des manifestations de l'ultra-droite avec des néo-nazis, et pourtant il dit que c'est bien pire ce qui se passe sur les campus à l'heure actuelle.
Et Jérôme... On voit un petit peu... Jérôme Viala-Godefroy, justement, comment s'y prennent les Républicains pour un peu reprendre la main sur ces facs? Est-ce qu'ils essaient de contrer une influence progressiste, voire wokiste, comme ils disent? Est-ce qu'il y a une vraie stratégie pour prendre le contrôle un peu de certaines universités?
Ah ben, on l'a bien vu, effectivement, en Floride, notamment, hein, avec Ron DeSantis. Et ils essayent, c'est vraiment un de leurs combats les plus centraux avec l'avortement, c'est cette idée de reprise en main, effectivement, d'une université qu'ils voient comme étant un lieu de propagande. Et ça va vraiment très loin, puisqu'on a, ils reprennent les directions, ils tentent de reprendre la direction de certaines universités, de limiter certains enseignements, notamment ce qui concerne les minorités. Et puis ils empêchent même la possibilité de certains livres d'être dans les bibliothèques. Donc on voit bien que ça va très très loin. Et là ils utilisent ces événements, ces quelques incidents antisémites pour attaquer et dire: vous voyez, en fait, ce qu'on vous dit depuis des années, voilà ce que ça amène. Ça amène le chaos, ça amène de l'antisémitisme, c'est de la faute de la gauche et de ces universités qui sont des bastions de l'idéologie gauchiste.
Alors, Tristan Cabello, est-ce qu'on peut mettre justement toutes les universités américaines dans le même sac? Est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, des universités qui sont plutôt conservatrices, par exemple, ou est-ce qu'ils vont étudier traditionnellement les futurs cadres du Parti républicain? Est-ce qu'ils vont dans les Ivy League? Est-ce qu'on peut mettre toutes les facs dans le même sac, entre guillemets?
Alors, non, et beaucoup de facs, en fait, ne font pas partie de ce mouvement. Alors, c'est vrai qu'il y a une pluralité d'universités qui font partie de ce mouvement, aussi bien des facs publiques que des facs un peu plus modestes et des facs qu'on appelle les Ivy League. Aux États-Unis, il y a vraiment une grande diversité d'offres dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, il y a bien évidemment des Ivy League, des écoles publiques, des écoles privées, mais il y a aussi des écoles qui sont conservatrices, qui ont un programme conservateur et qui sont très populaires. La plus grande école chrétienne du monde, c'est Grand Canyon University, et c'est ici, en Arizona, aux États-Unis. Donc il y a vraiment une offre là, mais il faut savoir quand même que les dirigeants du Parti républicain, Stefanik, Ron DeSantis en tête, sont des anciens étudiants d'Harvard. Harvard, en fait, crée cette élite aussi bien républicaine que démocrate, et Stefanik et Ron DeSantis, en fait, sont issus de ces grandes Ivy League.
Tristan Cabello, on évoquait tout à l'heure les grandes manifestations de 1968 contre la guerre au Vietnam. Est-ce qu'il y a des avancées, des droits sociaux que l'on doit à des mobilisations estudiantines? Est-ce qu'il y a des choses importantes qui sont ressorties de ces mobilisations dans les universités américaines?
Oui, alors par exemple, c'est très important, toutes les mobilisations autour de l'organisation Sunrise, qui était une organisation pour le changement climatique, qui ont déboulé vraiment, qui ont débouché sur beaucoup de changements. Je vous parlais en introduction, je ne sais pas si on m'a bien entendu, mais des investissements de ces universités. Et les étudiants ont fait en sorte que les universités n'investissent plus dans des entreprises qui ne seraient pas vertes ou qui font la promotion des énergies fossiles. Donc il y a eu des changements, il y a eu aussi beaucoup de changements, malheureusement pas assez lors des manifestations de Black Lives Matter. On sait que beaucoup d'universités, en fait, ont designer leur police sur le campus après ces mouvements. Mais encore une fois, ces mouvements, en fait, ils ne changent pas grand-chose s'ils ne sont pas ensuite accompagnés d'un mouvement un peu plus global dans les États-Unis. Mon collègue faisait référence tout à l'heure à la Convention démocrate de 1968. C'est exactement ce dont les démocrates ont peur cette année, c'est-à-dire d'une mobilisation qui s'étend à d'autres segments de la population, bien au-delà des étudiants, et qui pourrait culminer cet été à la convention démocrate à Chicago.
Et qui pourrait donc profiter aux Républicains. Jérôme Viala-Godefroy, justement, il y a quelques mois, une loi a mis fin à l'affirmative action, un système de discrimination positive qui favorisait l'inscription des minorités dans les universités américaines. Est-ce que ça aussi, c'est une victoire des conservateurs? Est-ce qu'il y a aussi déjà des effets de cette loi sur les campus?
Alors, on voit effectivement que il y a toute une, depuis des années, et on le voit avec la Cour suprême également, avec les juges qui ont été nommés par Donald Trump à la Cour suprême. Et une des batailles, c'est effectivement tout ce qui concerne l'histoire, le récit et l'implication des minorités. Il y a à droite maintenant une sorte de récupération de tout ce qui est la rhétorique des droits du mouvement civique, mais pour les appliquer aux Blancs. C'est-à-dire en disant mais nous sommes contre le racisme, mais on est pour que les Blancs puissent avoir les mêmes droits que les autres, et donc contre toute forme de discrimination, même positive. Et donc là, c'est vraiment un retournement extrêmement, extrêmement important, et la bataille se situe aussi beaucoup sur ce récit, en fait. De quel pays s'agit-il? De quoi parle-t-on? Cette idée de discrimination, à quoi ça correspond réellement? Et donc, on voit une inversion, en fait, hein, une inversion vraiment du langage et du sens des mots.
Merci beaucoup, et ce sera le mot de la fin ce soir. Pour terminer cette émission, je rappelle que l'Université de Columbia a exhorté tout à l'heure les manifestants à partir après l'échec de négociation et après 12 jours de rassemblement. Ces mobilisations, elles ont aussi essaimé ailleurs dans le monde, notamment au Royaume-Uni. En France ce soir, la région Île-de-France a annoncé la suspension de ses financements à Sciences Po suite à des rassemblements également pro-palestiniens qui suivaient donc ces mobilisations américaines. Merci à nos deux invités d'avoir accepté notre invitation. Tristan Cabello, historien, maître de conférences à l'université Johns Hopkins, et Jérôme Viala-Godefroy, chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, spécialiste des États-Unis. Merci également à Valentin Vanner à la réalisation, et à Arnold Assewa qui m'a aidé à préparer ce décryptage ce soir. Dans quelques secondes sur RFI, place à l'actualité africaine. On reviendra notamment sur la visite du président congolais Félix Tshisekedi à Paris, première visite officielle du dirigeant de RDC. Il est bientôt 20h30 à Paris.